Vous écoutez France Musique.
Très bonne année à tous, merveilleuse année 2011. On vous souhaite plein de belles choses, des projets, des concerts, bien évidemment, de la musique un peu partout et que le monde redevienne absolument beau. Sans cette crise dépressive et pessimiste, où dit-on, nous sommes plongés depuis trop longtemps. Bienvenue donc dans une nouvelle semaine de magazine, la première de cette année 2011. Un regard sur nos programmes. Demain, nous serons avec le violoniste Renaud Capuçon. Et s'il s'est remis d'une grise absolument féroce, sa grippe, Franck Bralé sera aussi avec nous. Mercredi, ce sera le Quatuor Cambini, en les personnes de Karine Croquenois et Julien Chauvin, mais également le réalisateur Robert Sibis pour son film Pianomania. Jeudi, ce sera le Mac Critique, comme tous les jeudis, avec Renaud Machard, Richard Martet et Philippe Venturini. Nous ferons un petit point sur la saison à venir, en tout cas les quelques grands spectacles qu'il ne faudra pas manquer dans les mois qui viennent. Et puis enfin, vendredi, venez nous voir là absolument, ce vendredi, ce sera Musique Vivante avec le Quatuor Ludwig, qui fête cette année son 25e anniversaire. Ils seront tous avec nous, Hélène Dau, Jean-Philippe Audely, Patrick Forêt et Anne Copperi pour nous interpréter un très très beau programme à base de Schubert, Shostakovich et Ravel. Ce sera en public et en direct donc ce vendredi. Le rendez-vous, vous le savez, c'est toujours porte A de la maison de Radio France, 17h45 pour ce spécial Quatuor Ludwig de vendredi, à ne manquer sous aucun prétexte. Quant aux informations et à tous les renseignements, c'est sur le site internet francemusique.com, rubrique Le Magazine. J'ai failli faire une chose assez unique ce soir en cette ouverture d'émission, accueillir mon invité en ironisant sur la proximité de son nom avec celui d'un lieu d'aisance. Alors vous allez me dire, encore un coup, ça aurait pas été de très bon goût, sans doute, c'est pour cette raison que je me suis abstenu. Et pourtant, ça aurait été pour moi comme un véritable hommage, oui, une façon de dire à celui qu'on a convié ce soir qu'on le lit depuis plus de 25 ans, depuis cette institution qui jusqu'à ce jour, et si je ne me trompe, est resté son seul album véritablement autobiographique. Une curiosité d'ailleurs, alors que la BD, ces derniers temps, se complète assez facilement dans l'autofiction, lui s'en est toujours soigneusement gardé. Ah, c'est qu'il faut du doigté, pas de complaisance, et de la pudeur, beaucoup, quand on s'attaque à ce qui est resté son objet d'étude, la bêtise, dont les formes sont innombrables, comme on sait, et parfois même musicales, si l'on sait y regarder. Ce soir, dans le magazine, nous apprenons le piano avec Christian Binet et Mathieu Papadiamandis. Le Iurawit Dominus, extrait du Dixit Dominus d'Antonio Lotti. C'était une version tout à fait rare de cette œuvre qui ne l'est pas moins, signée cette version Matthias Jung. Et je ne veux rien vous dire sur Lotti, ni ce pourquoi on l'entend ce soir, sinon que c'était le premier choix de mon invité du jour, Christian Binet. Enfin, on devrait dire Binet, c'est-à-dire, comme on dit souvent, le père des Bidochons. Mais non, enfin bon, pas le géniteur des Bidochons, hein, son créateur. Voilà, ça va nettement mieux. Qui sera avec nous dans une dizaine de minutes, malheureusement, pas en début d'émission. Il ne causera donc pas de cet Antonio Lotti, mais on va en profiter, bien parce que lui est là dès le début. Mathieu Papadiamandis, bonsoir à vous.
Bonsoir.
On va en profiter pour parler avec vous d'un site internet qui est en train d'ouvrir et, comme on le verra tout à l'heure, qui n'est pas très loin finalement de la dernière BD de Binet. Ce site, eh bien, vous en êtes là, mais le créateur, jejouedupiano.com, ce qui veut dire qu'on peut apprendre le piano sur internet. Pourquoi vous avez créé ce site-là? Dites-moi, racontez-moi.
Oui, en quelque sorte, c'est vrai qu'on peut apprendre le piano par Internet, mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est vrai que c'est un site de cours interactif et personnalisé avec quelques-uns des plus grands pianistes français et professeurs. Et parmi eux, donc Marie-Joseph Jude, Laurent Cabasso, François Chaplin, je vais essayer de ne pas en oublier, Bruno Rigouteau, Jacques Rouvier. Ouais. Voilà. Et en fait, effectivement, ces personnes proposent des conseils très approfondis sur des pièces pour tous les niveaux, pour tous les types de pianistes. Je dirais que ce soit un débutant ou un pianiste d'un niveau plus avancé. Mmh. Mais également pour les étudiants, j'imagine tout à fait un étudiant d'une école de musique ou d'un conservatoire profiter de ces conseils précieux donc, sur tout ce répertoire. De musique classique.
C'est vrai que rien ne remplace le contact direct en musique comme ailleurs, mais rien n'empêche non plus d'avoir un prof et puis d'aller chercher quelques conseils, et pourquoi pas sur Internet.
Voilà, effectivement, ce site peut constituer un complément. Mmh. Et je pense à la fois que par sa richesse, c'est-à-dire que vraiment, on assiste à un cours dans lequel l'œuvre se déploie petit à petit, est expliquée pas à pas. Et je pense que ça peut être extrêmement enrichissant et très formateur. Alors, il y a des tas d'éléments qui viennent donc compléter ce cours, c'est-à-dire qu'on propose aux abonnés de poser des questions directement au professeur. Mmh. C'est-à-dire que sous chaque cours, la personne qui le souhaite peut poser une question d'ordre technique ou d'interprétation au professeur qui lui répondra de manière personnalisée, je dirais.
Alors, quand je dis que le site vient à peine d'ouvrir, ça date même d'aujourd'hui.
Oui, oui, c'est vrai.
On l'inaugure quasiment pour l'émission. Je vois que vous avez l'iPad d'ailleurs, hein,
sous le
coude, là, en train
de
regarder.
Le site est compatible, effectivement, avec l'iPad. C'est pour ça que je ne m'en sépare jamais.
Ça veut dire que vous travaillez vous-même avec l'iPad à côté de vous, au piano?
Non, pas
quand même
tout
pas,
à fait.
Hein. Pas non, encore, mais ça viendra peut-être un jour. Alors, les professeurs, on a parlé d'eux. Les œuvres, il y en a quand même pas mal. On peut voir du Chopin, du Bach, du Mozart, bien évidemment. Ça décline, en fait, ces œuvres-là. Et vous allez grandir, en fait, le corpus de toutes les œuvres que vous avez au fur et à mesure.
Oui, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on débute, on ouvre le site avec environ 200 œuvres. Ouais. Et puis, effectivement, tout ça va s'enrichir avec le temps. Mais bon, ça me semble déjà une somme assez considérable. Et en fait, bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement des pièces pour différents niveaux, c'est-à-dire à la fois du répertoire plus destiné aux débutants,
oui.
et puis des pièces pour les niveaux plus avancés.
Oui, qu'on n'est pas se lancer non plus vers quelque chose de trop compliqué par rapport à ce qu'on est capable de faire, ce qui est toujours évidemment un grand danger. Bon, on va entendre Mathieu Papadiamandis, puisqu'il est avant tout pianiste. On va l'entendre ici dans ses œuvres listiennes, Nuages gris. Nuage gris de Franz Liszt, joué par Mathieu Papadiamandis, il est pianiste, et puis c'est donc lui aussi qui lance ce site jejoudupiano.com, le premier site de cours de piano en ligne pour tous les niveaux. Voilà comment c'est sous-titré. Un but aussi qu'on va dire un peu patrimonial, Mathieu, là-dedans. Hein.
Oui, parce que je pense effectivement que j'ai eu cette chance de côtoyer un peu tous ces grands noms depuis mes années au Conservatoire de Paris. Effectivement, donc j'ai passé un certain nombre d'années depuis à les enregistrer, à les filmer, et toujours dans cette idée de pouvoir diffuser au plus grand nombre,
transmettre leur enseignement.
Voilà. Mmh. Oui. Et puis bon, quand on pense à des gens comme Bruno Rigouteau, disciple de Samson François, l'un des rares disciples, de même Jacques Rouvier avec Vlado Perlemutter. Mmh. Enfin, c'est vraiment une tradition en quelque sorte qui est perpétuée à travers ce site.
Vous dites
entre
filmer,
autres, bien
vous
sûr.
Dites filmer parce que le site justement, c'est à chaque fois bon, il peut y avoir des textes, mais il peut y avoir aussi de la webcam, c'est ça ?
Non, en fait, il y a toujours des images. Ouais. Alors soit on voit les mains directement du professeur en question, soit il y a un système assez nouveau, je dirais, c'est-à-dire que on visualise la partition qui est évidemment synchronisée avec les conseils du professeur, et des annotations viennent se juxtaposer sur la partition. D'accord. En temps réel, avec donc pour les premiers niveaux, les débutants par exemple, un curseur qui suit le cheminement des notes. Enfin, voilà.
Mais c'est du grand interactif tout ça.
Oui, c'est ce qu'on essaye de créer le plus possible.
Ah,
bien sûr.
Les professeurs, on en a parlé, on n'a pas parlé en revanche des entretiens, il y en a aussi pas mal du tout. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire une bonne liste des grands noms du piano aujourd'hui, puisqu'il y a des entretiens avec, je ne sais pas, qui signent Frère, et puis en France, ouais. Nicolas Angelich et quelques autres.
Oui, mais en fait, Frédéric Gossin, donc, qui travaille avec moi, qui a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de grands pianistes, n'est-ce pas, de notre temps, et il les a toujours interviewés dans une certaine direction, je dirais, toujours liée à cette idée d'apprentissage, mmh. enfin de pratique du piano. Toujours dans ce but d'offrir les précieux conseils de ces concertistes, ouais. en quelque sorte. Et justement, pour le lancement, nous avons une interview exclusive de David Frey, qui vient de sortir un disque Mozart.
Voilà. Et ça le complète bien. Jejoudupiano.com, c'est pas gratuit pour autant.
Non.
Certaines choses sont gratuites, d'autres pas, bien sûr. 5 cours, 9,90 €, ce qui fait à peu près 2 euros le cours, c'est ça, hein ? Quand on sait qu'un cours particulier, ça coûte quand même nettement plus cher que ça,
oui.
on dit que ça peut être
certes.
un bon moyen. Et puis surtout, il y a ceci, c'est qu'il suffit parfois de très peu de mots hein, pour comprendre quelque chose à une pièce.
Oui.
Il faut encore que ce soit les bons, quoi.
Oui, certes. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. C'est là où on sent toute la maîtrise de l'art d'enseigner. Mmh. C'est d'être capable de trouver les justes mots sans avoir d'élèves face à soi. C'est-à-dire que les professeurs dont on parle s'exprimaient, parlaient de leur façon d'envisager l'interprétation et le travail de la pièce sans avoir face à eux un élève.
De les surprendre un petit peu comme contexte.
Oui, mais à la fois ça ouvre un champ infini, je dirais, puisque vraiment là on parle de conception d'une pièce et de son apprentissage.
5 cours, 9,90 €, le mensuel 19,90 € pour avoir tout ce qu'on veut pendant un mois, c'est ça.
Oui.
Et puis il y a même un abonnement annuel pour jejoudupiano.com. On va réentendre encore une fois dans votre disque liste. Ah, c'est vieux, il a 10 ans, il faudra en faire un autre, Mathieu, à l'occasion. Hein.
Oui, j'y songe.
Oui, il faut y songer très sérieusement. Et là, ce sont les dernières mesures de la vallée d'Obermann.
Thank you.
Mathieu Papadiamandis au piano dans cette vallée d'Obermann, juste les dernières mesures du Franz Liszt qu'il jouait ici. On le retrouvera, puisqu'il y est aussi professeur sur son propre site. Jejoue-du-piano.com, c'est sur Internet, c'est une première. Allez-y voir au moins. Alors après, les abonnements, vous faites comme vous voulez. Mais on peut y apprendre plein de choses. Il est arrivé pendant la vallée d'Obermann. Christian Binet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
On a eu des problèmes en venant, c'est ça, sur le trajet?
Les problèmes, c'était pas en venant, c'était surtout que j'ai été trompé d'heure.
Heureusement,
ça roulait bien, justement, parce que s'il y a eu des problème, je ne serais pas là.
N'y seriez pas encore. Alors, vous publiez, Christian Binet, Haut de gamme, c'est paru il y a quelques semaines déjà.
Oui.
C'est un livre sur la musique. Je disais en introduction, moi, ça m'étonne un petit peu parce que vous êtes quelqu'un de très pudique. Il n'y a jamais eu véritablement d'autobiographie chez vous, à moins qu'on considère que les Bidochons sont un peu une autobiographie d'une certaine manière. Enfin bon, une autobiographie de ma propre bêtise ou quelque chose comme ça. Mais la musique, si vous y venez assez tard dans vos albums, j'ai pourtant l'impression, à voir votre programmation musicale, que ça remonte et que vous êtes un vrai mélomane.
Bah ça, je suis un mélomane, c'est-à-dire j'ai toujours écouté de la musique classique, y compris quand j'étais jeune et que tout le monde écoutait les Beatles ou du rock. Mmh. Moi, j'écoutais déjà de la musique classique, si bien que quand les autres amenaient les Beatles ou les yéyés pour danser dans les booms, moi j'amenais Vivaldi et que je faisais pas un triomphe. Hein.
Oui. C'est une tradition familiale ou c'était
non, même pas, non même pas, parce que je veux dire, à la maison, on avait deux disques, on passait sur un vieux Tepaz et vous allez voir, il y avait Maté Altieri qui était une chanteuse d'opérette, donc à la limite, ça peut être, on peut se dire que ça se rapprochait plus, mais l'autre disque, c'était les compagnons de la chanson. Alors il y avait un truc, c'est que mes parents chantaient dans une chorale effectivement, et puis ils chantaient le cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré, et que mon père chantait souvent les premières paroles, verbe égal au très haut. Et donc moi, que j'étais gosse, et j'entendais vert, la couleur verte, vert, et puis Boulin bégal. Et je me suis demandé pendant des années ce que c'était que ce bégal et vert en plus, avant de l'intégrer à mon tour dans la chorale et de me rendre compte qu'en fait c'était vert et bégal, ouais. Verbe égal.
Ça veut dire que vous avez chanté aussi.
J'ai chanté, j'ai pas vraiment chanté, mais j'ai appris l'instrument en fait sans l'apprendre. J'ai appris comme ça d'un instinct, et puis j'ai très vite joué de l'orgue par exemple. Mm. J'avais acheté un petit harmonium à soufflerie où on entendait plus la soufflerie que les notes, et j'ai commencé comme ça d'oreille. Après, pendant 10 ans, j'ai tenu les orgues à l'église des Temples où j'habite. Oui. Et puis avant de déménager, donc je pouvais pas emmener l'orgue, donc je suis passé à l'accordéon. Et de l'accordéon, en fait, j'ai appris la musique à ce moment-là. Et depuis, maintenant, j'apprends la composition musicale. Voilà.
Ah ben d'ailleurs, il y a une composition à vous, hein. Oui, qui est en ouverture de votre gamme, dans les premières pages.
Oui.
C'est une composition réelle, j'ai essayé de tout à l'heure, mais enfin, il y avait, bon, comme c'est pour quintette à cordes, je crois, beaucoup pour même les gros doigts de pianiste.
C'est un prélude pour orchestre à cordes, oui.
Ah bon.
Qui...
Et déambulateur.
Et déambulateur, mais ça, il fallait que je mette une connerie, parce que ayant brocardé les grands auteurs de la musique classique pendant tout un album, je pouvais décemment pas, moi, me mettre en évidence comme ça, sans y mettre un clin d'œil.
Un air de dire Chopin, c'est nul, mais Binet, ce serait bien.
Voilà, alors que Chopin, j'adore, hein. c'est vraiment un gag.
Enfin, c'est pas les compositeurs que vous brocardez, c'est ceux qui s'y attaquent.
Ouais, c'est plus ça, parce que même les compositeurs qui sont immenses, et puis donc plus personne ne conteste en fait la valeur, vous trouvez encore des gens pour dire que c'est pas bon, que c'est nul, ou que, ça rappelle quelqu'un d'autre. Enfin bon, moi j'ai entendu ça pour d'autres, et donc pour Chopin, ça doit exister aussi.
Le cantique de Jean Racine, verbe égal, hein, vous aurez bien compris, c'est là-dessus que le jeune Christian a accommodé jadis. C'est Michel Corbeau qui dirige ici.
Thank you.
Michel Corbeau, à la tête de l'ensemble vocal de Lausanne dans le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Un choix de Christian Binet, donc, ce soir. Vous chantez quoi, vous, quand vous chantez le cantique de Jean Racine?
Je chante plus, moi.
Bah, vous chantez plus, mais enfin, la voix, c'est quoi? Ténor, basse?
Ah non, mais j'étais gamin, je chantais soprane.
Ah, hein. Oui.
J'étais dans la mercanterie, parce que j'ai fait le petit séminaire. Il y a le petit séminaire, j'étais à la mercanterie. J'avais une très jolie voix, d'ailleurs, comme on l'entend dans les disques là, de gosse.
Ouais. Et puis donc après, l'orgue et le piano à bretelles. Vous jouez, ouais, pas Bach, au moins, à l'accordéon?
Si, ça s'y prête très bien.
Bah oui, je sais bien. Ça. Galliano a fait un superbe disque. Je sais
bien
pas
sûr, il est magnifique. Ouais. Et moi, je prends la musique d'orgue, en fait, ça et Pachelbel, qui sont ça. Parce que la musique d'orgue de Pachelbel est magnifique. Hein. Et comme elle est sans pédale, il y avait des choses sans pédale, donc je peux jouer à l'accordéon. Parce que c'est ça le problème, c'est quand il y a des pédales, c'est un problème. Mais aussi, pendant très longtemps, je cherchais la musique classique, en fait, qui ne soit pas du piano. Et je suis parti, en fait, sur l'harmonium. Ouais. Parce qu'il y a toute une série de compositeurs qui ont composé par l'harmonium, mais dans cette bande des études, mais pas des moindres, hein, Vierne, Tournemire, et surtout Guy Repart, qui pour moi, c'est mon livre de chevet, c'est-à-dire qu'il a écrit 100 pièces qui, dans un recueil qui s'appelle Au pied de l'autel, et alors c'est vraiment magnifique, l'harmonie est superbe, et en plus ça tombe très bien sous les doigts, on a l'impression que ça a été écrit pour les accordéonistes, et ça colle très bien avec la sonorité, mon instrument, parce que ça aussi il faut trouver.
Mmh. C'est curieux, parce que vous avez fait parfois des retours dans votre œuvre, hein, le bon tant pis de Robert Bidochon me rappelle furieusement l'harmonium, non?
Oui, d'accord, mais enfin, eux, ils sont ignares, hein, en musique.
Un peu,
hein,
oui.
Il sait jouer Copain Pompimpon, et puis quand il a des disques, c'est Verschuren, et en fait, son chien qu'adore, qui est un chien philosophe, qui regarde le ciné-club et qui adore la musique classique, est obligé de cacher les disques comme le Stabat Mater de Poulenc, par exemple, dans les disques de Verschuren. Voilà, ça.
Qu'il faut que quand Robert le retrouve, évidemment.
Voilà, c'est ça. Quand il veut se passer vers Schuren, lui, en fait, il tombe sur le Stabat Mater de Poulenc.
Oh mon Dieu, ça fait mal, ça. Vous êtes beaucoup plus qu'un amateur, j'ai l'impression, Christian Binet, en musique. Hein.
Bah, moi, je pratique beaucoup. Je fais au moins une heure d'accordéon tous les jours. Et puis, j'apprends la composition, justement. Pour ça, si vous voulez, si j'ai été passionné d'horlogerie, je passerais mon temps à démonter les horloges. Là, je suis passionné de musique. Là, en fait, je suis en train de démonter la musique pour essayer de savoir comment ça marche. C'est ça qui m'intéresse. Apprendre, pour moi, c'est un bonheur. Donc, je peine pas, si vous voulez, même si c'est difficile, je peine pas à apprendre la musique.
Vous l'apprenez, vous l'écrivez, et puisque vous en écoutez beaucoup, oui.
Oui, j'en écoute beaucoup.
Beaucoup de disques à la maison?
Oui, mais j'en écoute moins maintenant que je compose, parce qu'en fait, je passe les après-midi entiers à composer de la musique, alors qu'avant, souvent, je passais l'après-midi à écouter des disques. Hein.
Ouais. Alors, je ne vous demande pas si vous écoutez de la musique en dessinant.
Je ne peux pas, parce que moi, justement, je suis un mélomane. Donc, en fait, quand j'écoute de la musique, c'est dans un fauteuil, en face des enceintes, et puis concentré pour écouter toutes les notes, tous les instruments. Mais je veux dire, si une musique de fond, ça, c'est impossible. En plus, je suis tellement amateur de musique classique que si j'en mets pendant que je travaille, je suis accaparé par la musique et beaucoup moins par mon boulot. Donc, je fais un choix.
Alors, vous avez une carrière ratée, vous auriez dû être musicien?
Elle n'est pas ratée. Elle n'est pas ratée, mais c'est vrai que j'aurais pu être peintre aussi, parce que je fais de la peinture aussi. Tout ça, c'est les moyens d'expression. Donc, en fait, tout ce qui est moyen d'expression, moi, me tente, parce que si je fais de la peinture ou de la musique à côté des Bidochons, justement, c'est parce que je ne peux pas tout exprimer avec les Bidochons. Donc, j'ai besoin aussi d'autres choses. La peinture m'a servi justement à expulser des choses qui étaient en moi depuis mon enfance. Et la musique me donne une sérénité parce que c'est beaucoup plus sensuel. C'est beaucoup plus doux, donc ça, j'ai besoin de tout ça, en fait.
C'est ça qui vous extrait de la bassesse des Bidochons?
Bon, ils ne sont pas bas, en fait. Ils ne sont pas très malins, mais ils ne sont pas bas. Ils ne sont pas des gens méchants. Ils font de mal à personne. C'est français quotidien, mais avec leur petit côté, leur petit travers, quoi. C'est ça que je dépeins, moi. Et d'ailleurs, le succès, s'il y a autant de succès, justement, c'est parce que les gens ont bien compris que c'était d'eux que je parle et qu'il n'y a pas de méchanceté derrière tout ça.
On va écouter du Martinou. C'est un choix de vous. Spalitschek, un ballet de Martinou. C'est aussi une rareté. Pourquoi ce choix-là?
Martinou, c'est une vieille connaissance, parce qu'à l'époque où il y avait encore des disquaires de quartier et les gens qui connaissaient leurs clients et qui savaient les conseiller, je me souviens avoir été un jour pour acheter autre chose et on m'a dit écoutez ça, et c'était le concerto pour deux pianos et orchestre de Martinou qui est magnifique, avec cette déferlante de deux pianos qui déboule en quelques mesures assez inattendue. Et depuis, si vous voyez, soit on a les compositeurs, on les a, on les lâche, ou on les retrouve ou on les retrouve pas. Et Martinou, en fait, je suis toujours resté fidèle, c'est-à-dire j'ai quasiment tout ce qui sort en disque et je l'écoute régulièrement. Et ça, je trouve que c'est très joli, c'est magnifique. La partie de piano est très belle, c'est souvent très rythmé, avec très mélodique. Donc voilà.
C'est une forme de valse un peu. Hein.
Oui, c'est une valse.
Mi-déglinguée,
c'est une valse, oui, très très belle. Ouais.
dirigé par Charles Maqueras. C'était un extrait de Spalitschek de Bohuslav Martinou, précisément le bal de Cendrillon qu'on entendit ici, c'est le troisième choix, vous l'aurez compris, de Binet. Son dernier album, Bas de gamme, volume 1 de Haut de gamme, à moins que ce ne soit l'inverse, ce qui est sûr en tout cas, c'est que là on a un cycle qui s'ouvre là autour de la musique et de la manière dont on la transmet. Justement, on retrouve le sujet dont nous parlait tout à l'heure Mathieu Papadiamandis. Enfin là, c'est une chose quand même, il faut le dire, Christian Binet, on le sait, la musique c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend difficilement, durement, il faut des gens pour vous apprendre, et des gens pour apprendre aussi. Les gens qui vous apprennent sont parfois des concertistes qui en ont marre tout d'un coup de plus voir de public dans leur salle et qui se disent on va aller vers l'enseignement, même si on n'avait pas envie d'y aller. On va dire que c'est un peu l'argument initial de ce bas de gamme.
C'est un peu ça, parce que moi quand j'ai appris l'accordéon, justement j'ai appris avec quelqu'un qui avait fait quand même 10 ou 15 ans d'accordéon dans les conservatoires, et je me souviens que je m'étais fait la réflexion, il y a des jours où vous arrivez, vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas le temps de répéter, c'est catastrophique. J'étais sorti en me disant, la pauvre quand même, avoir fait autant d'études pour avoir un ringard qui n'est pas foutu d'aligner de notes quand même. Et donc j'étais parti de cette histoire-là en fait. Et donc j'avais fait l'histoire au début d'un professeur qui vomissait chaque fois que l'élève partait, parce que la leçon était tellement insupportable que ça le faisait vomir. Et l'élève qui était navré, qui lui disait, mais est-ce qu'il faut que je revienne et que je continue à prendre des cours, le prof lui disait, oui, revenez, ce jour-là, je mangerai léger. Et donc avec ma prof, c'était devenu une plaisanterie. C'est-à-dire, quand je savais que je n'allais pas être bon, je lui disais, j'espère que vous avez mangé léger. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a de ça. Il y a une frustration souvent de gens qui avaient peut-être rêvé de faire autre chose que de l'enseignement. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sont très bons musiciens, mais qui sont pas pédagogues. Et ça, c'est quand même aussi catastrophique pour ceux qui apprennent. Notamment, je trouve qu'il y a souvent ce qui manque dans les professeurs de musique, enfin des professeurs en général d'ailleurs, c'est de déstresser l'élève, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est nul, parce qu'on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a entendu chez les virtuoses. Et donc souvent, on ne vous fait pas comprendre qu'avant de commencer, eux-mêmes ont commencé déjà à annoncer la musique. Quoi. Et moi, ma prof pour ça était impeccable pour ça, parce qu'elle m'a toujours calmé quoi, mes angoisses.
C'est vrai Mathieu, c'est ingrat parfois l'enseignement. Lorsqu'on a de bons élèves, ce qui se produit aussi, c'est merveilleux, mais lorsqu'ils ne sont pas bons, lorsqu'ils n'ont pas envie, lorsque le feu y est pas, c'est dur de tenir, non ?
Oui, la force des grands professeurs, je crois, c'est justement de désinhiber, effectivement, et d'être capable de percevoir en quelques minutes ce qui fait obstacle au fait, justement, de jouer ou de transmettre ce qu'on ressent par l'instrument.
Parfois, ce qui fait obstacle, c'est que l'élève n'a pas envie d'y aller, tout simplement. Dans ces cas-là, on peut lui dire chez toi, non ? Non, on n'ose pas trop le dire, en règle générale. Bah, pourtant, on le dit dans votre album.
Il y en a beaucoup pour qui les parents, c'est la garderie. Quoi.
Oui.
Mais c'est pareil pour la peinture ou n'importe quoi. Il y a des gosses qui n'ont pas forcément envie, mais ça débarrasse les parents. Voilà.
Et puis ceux qui ont trouvé un piano, enfin qui l'ont eu en héritage, qui du coup veulent faire du piano alors que le gamin veut faire de la trompette.
Bah, ça, c'est typique des parents. C'est-à-dire que le gosse, il veut faire la trompette, on a un piano. Non, tu vas jouer du piano. On ne va pas acheter une trompette alors qu'on a déjà un piano à la maison. Quoi. C'est classique.
Mathieu ?
Oui, par chance, certains manifestent très jeunes leur envie de faire de la musique. Je parle en connaissance de cause.
C'est votre cas à vous ?
Non, plutôt mes enfants. Donc ça, c'est une chance. Oui, sans avoir à les pousser naturellement. L'envie leur vient, et là c'est effectivement c'est une chance unique.
Ouais, mais quand on a un papa musicien à la maison,
oui,
fatalement,
et
ça
une
aide
maman
un peu.
Également.
Enfin, je vois qu'il aime tellement peu l'enseignement que maintenant il va sur le net pour enseigner, pour être sûr de ne pas avoir les gens en face de lui. Alors, il y a une chose drôle que vous soulignez comme dans cet album, dont on se rend bien compte de près, Binet, c'est que ce qui se passe avec une œuvre, c'est un rapport finalement qui est très profond et qui a beaucoup de malentendus. On voit plein d'élèves ici qui arrivent avec un vécu, même s'il nous semble un peu ridicule, mais il est réel pour eux sur une œuvre, et puis le vécu du professeur est tout simplement pas le même, et les deux s'accordent pas.
Bah oui, mais c'est toujours classique, ça, vous savez, c'est pour la même chose pour un auteur de BD. Moi, ça m'a choqué au début quand je faisais des dédicaces, parce que les gens me renvoyaient une image des Bidochon qui n'était pas celle que j'avais voulu. Et au début, je sortais malheureux en disant, mais finalement, personne ne me comprend. Et en définitive, excusez-moi, je lui ai dit que finalement, c'était pas plus mal, en fait, parce qu'en fait, chacun s'approprie les œuvres ou les personnages de BD, et s'il y a un succès, justement, c'est à cause de ça. C'est parce que tout le monde peut se reconnaître dans les personnages ou dans une musique. Donc après, ça prend l'importance, justement. Ça la rend beaucoup très vivante, la musique, quand chacun l'approprie et l'interprète en fonction de son vécu, justement, c'est ça le vrai côté de la musique.
Il ne faut pas interdire les lectures, enfin celles des autres en tout cas, Mathieu.
Non, c'est ce qui fait toute la diversité et la richesse, effectivement, de notre métier, entre guillemets, dans le sens le plus noble du terme.
Ouais. Ça ne vous fait pas marrer un peu qu'on fasse l'apprentissage du piano sur Internet, Christian Binet ? Ça ne pourrait pas faire quelque chose dans le volume prochain ?
Si, ça pourrait, mais moi ça me fait pas marrer parce que moi j'utilise aussi, enfin pas sur Internet, mais par exemple sur l'iPhone, j'ai un petit logiciel d'harmonie.
Oui, non, mais là je veux dire, c'est pas en soi, mais c'est que le fait que là ça peut aussi exciter pas mal de malentendus pour ceux qui
vont voir. Bien sûr, mais tout, vous savez, après moi je vois toujours que les travers, souvent.
Oui, bah oui.
Alors les bonnes choses, j'ai plutôt tendance à les mettre de côté et à m'amuser sur ce qui va pas.
Hein. Ouais, et Mathieu ?
Oui, oui. Moi, j'expérimente un petit peu tout ce qui s'offre à moi.
Ouais. Donc l'iPad, on l'aura bien compris. Le choix suivant de Christian Binet, l'ouverture du premier concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Alors là, c'est encore un choix de mélomane, on va dire. Ce n'est pas la version originale, c'est une transcription, réécriture de Reger.
De Reger. Si vous voulez, il y a des musiques que je connais par cœur. C'est le cas de Bach, qui pour moi est le summum des musiciens. Donc les brandebourgeois, les suites pour orchestre, je les connais. Et donc, d'avoir une transcription pour des instruments différents, comme là, deux pianos, par exemple, permettent complètement d'avoir un éclairage différent et de redécouvrir un petit peu une œuvre. Voilà, c'est pour ça. En plus, bon, c'est quand même la transcription et de Reger, c'est quand même pas le dernier des venus. Hein.
Thank you.
l'ouverture du premier Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, version Reger, au piano, le duo Zontraut Spiedel et Evelyne de Trinkner. Bien à l'allemande quand même, hein, bien germanique, hein, hein, Mathieu Podiamandis, on préfère plus.
Alors qu'est-ce que vous avez contre les germaniques?
Ah non, non, rien du tout, non, non, mais je veux dire au sens...
Moi j'aime bien parce que ce genre c'est très rythmé, ça donne envie de taper du pied. J'aime
on
bien.
Sent bien la pulsation.
Voilà, voilà, c'est ça.
Exactement. Ça, vous risquez pas la louper. Et moi, j'aime bien.
Ça me tourner autour de la table.
Pas loin.
Enfin, si vous êtes tous contre moi, vous le dites.
Non, mais pas du tout. Non, non, je respecte votre choix. Je suis très content d'avoir découvert ça, en plus. Ouais. Surtout que vous m'apprenez à l'occasion donc, que Reger a transcrit pour deux pianos les Brandebourgeois et puis les pièces
suites,
de Bach encore.
Tout ça, oui, plein de choses. Ouais.
Ah ouais. Bon, bien. Haut de gamme, donc je le rappelle, c'est le dernier volume de Christian Binet, consacré, lui, intégralement à la musique et à la manière dont on la joue ou dont on l'apprend, dont on fait la compétition aussi avec. Il y a un clarinettiste un petit peu fou qui croit que c'est une course d'obstacles quasiment, la musique. Hein. Mais bah, c'est un peu ça, remarquez.
Bah, c'est un peu ça, puis c'est des duos. Alors, c'était marrant d'avoir des gens qui s'entendent mal, parce qu'en général, la musique, c'est quand même fait pour rassembler, pour partager. Et dans ce cas-là, en fait, il y en a un qui est jaloux, parce que ça fait des années qu'il joue la deuxième clarinette. Ils se demandent pourquoi c'est toujours l'autre qui a la première clarinette. Il a l'impression qu'en fait, avoir la première clarinette, c'est plus prestigieux que d'avoir la deuxième. Donc voilà. Bon, je pars souvent une petite idée comme ça, et puis après, je développe le truc. Mmh. Mais c'est toujours rigolo quand il y a une zizanie dans un couple ou dans un groupe. Quoi.
Ouais. Mais cette idée de compétition, c'est vrai que c'est inhérent à la musique, pas seulement à son apprentissage, à la manière dont on rentre dans la carrière aussi, Mathieu, avec les concours et tout ça.
Oui, voilà, oui, c'est vrai que le passage un petit peu obligé des concours internationaux. Nous faire ressentir ce genre de sentiments, effectivement.
Mais pas seulement, même les concours et examens en conservatoire. Est-ce que c'est bien utile, tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il en faut? On sait que c'est quand même une usine à casser le désir en musique.
C'est aussi l'occasion de se produire en public, ce qui est quand même indispensable, justement, appréhender la scène. C'est quelque chose qui doit être fait très, très tôt.
Vous voulez dire qu'il faut qu'il y ait un moment où on joue devant d'autres?
Ah oui, c'est indispensable.
Ouais. Bah, est-ce que les autres, ça devrait être obligatoirement des professeurs qui sont là pour vous juger?
Mais moi, je ne l'ai jamais perçu comme tel.
Non,
non, non. Franchement, ça m'a toujours beaucoup apporté d'avoir des réactions de professeurs ou de membres du jury. Bon, elles ne sont peut-être pas toujours constructives, mais quand elles le sont, c'est vraiment un pas en avant.
Ouais, parce que vous êtes un bon musicien, sans doute aussi. Et c'est peut-être pas grand-chose à vous dire. Cet aspect compétition, Christian Binet, cet aspect examen, concours, machin, vous qui vous revendiquez, j'ai l'impression, comme un musicien amateur, qu'est-ce que vous en dites?
Bah, il n'a pas tort, parce que moi, je veux dire, je suis incapable de jouer en public, par exemple, parce que je suis mon seul auditeur. Donc, déjà, l'accordéon en zone des boutons, hein, pas mal de gens, y compris dans mon entourage. Alors, donc, je joue pour moi. Donc, effectivement, quand on me demande de jouer en public, je perds tout de suite mes moyens, parce que j'ai au lieu de suivre la partition ou d'être dans la musique, en fait, je suis plutôt à regarder ce que font les autres, quoi. Donc, c'est vrai que c'est nécessaire.
Ouais. Et au concert, vous y allez beaucoup, au concert des autres, justement?
Ah oui, souvent. J'ai un abonnement à l'opéra, par exemple.
Ah bon?
Ah bon. Régulièrement, depuis 30 ans, y compris quand c'était encore qu'à Garnier.
Ah bon? Et vous avez vécu comment, alors, la période Mortier? Vous vivez comment la période Joël?
Il y a des périodes où, chaque fois que le rideau s'ouvre, avec ma femme, on se poussait du coude parce que la Traviata était en salopette d'au mieux un chantier ou chose comme ça.
Bon, c'est la période Mortier, ça.
Ouais, il y a une série où ça n'était que ça, quoi. Alors moi, je veux bien quand il y a une vraie idée derrière, mais souvent, ce n'était pas le cas, quoi. C'était uniquement pour être original par rapport à ce qui se faisait avant. Bon, il y a eu, par exemple, Don Juan de Daneke qui se passe dans un fast-food, mais je trouve qu'il y a une idée, là. Donc moi, j'ai marché. C'est le premier moment où ça se passe beaucoup dans le noir. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui allume la lumière du fast-food. Donc ça fait plaisir aux spectateurs parce qu'on voit enfin qu'il y a des gens sur scène. On les entend chanter, mais on ne les voit pas. Mais il y avait une vraie idée. Donc ça, j'adhère à ça. Mais il y en a d'autres, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent dire. Enfin, c'est ridicule.
Est-ce que vous chanteriez aujourd'hui dans un chœur, Christian Binet?
Je ne sais pas chanter, moi. Je ne sais plus, mais je n'ai plus la voix. Il faut la travailler, la voix. Il faut chanter dans un chœur, il faut quand même s'entraîner. Moi, très, très longtemps que je n'ai pas chanté.
Enfin, je note que dans votre choix de ce soir, il y a quand même beaucoup de musique chorale. Hein.
Ah ben, j'aime la voix de façon générale. J'aime le lyrique, donc j'aime tout ce qui est voix. Oui.
Voilà. Là, vous avez choisi un petit Schubert, Der Gondelfahrer, le gondolier, hein, si je ne me trompe, quand je dis petit Schubert, avec une inspiration absolument magnifique. Et c'est le chœur Crescentus, dirigé bien sûr par Laurence Equilbé. Pourquoi cette pièce-là?
Parce que les jolies, qu'est-ce que
tout simplement. Dire,
ça bon, la musique de profane pour chœur de Schubert, elle est magnifique d'un bout à l'autre. Il y a quasiment rien acheté. Alors il va falloir en prendre un. Celui-là, je trouvais qu'il est joli, il est doux, il est rythmé avec le piano derrière.
Pas rythmé comme les deux pianistes de tout à l'heure.
Ah non, mais bon. Attendez, c'est pas joué par les teutons, là, c'est joué par des Français, là.
Franz Schubert et son gondolier chanté par le chœur Akshantus sous la direction de Laurence Equilbé. C'était le choix de Christian Binet qui va nous donner encore quelques bidochons. On en est au tome 20 après 30 ans quand même de bidochons. Et vous avez toujours des choses à écrire dessus parce qu'en fait le monde change autour d'eux. Donc fatalement, il y a toujours des choses à faire avec.
Bah c'est ça justement, c'est parce que le monde change que j'ai encore des choses à dire. Si vous voulez, le portable ou l'internet, je n'aurais pas fait il y a quelques années. Mais comme de seul coup tout le monde l'a, donc là j'ai commencé sur l'écologie. Parce que justement, c'est aussi dans l'air du temps. Donc, tout le monde doit s'y mettre, même ceux qui ne s'intéressent pas. Et donc, voilà.
Ouais. Les bidochons sont une sorte de portrait en creux, on va dire, de la modernité, telle qu'elle avance aussi.
Bah, plus ou moins. C'est surtout la façon dont les gens récupèrent la modernité uniquement pour être dans le coup. C'est-à-dire que souvent, ce sont des outils et les gens oublient que ce sont des outils. Ça devient des mottes. C'est-à-dire qu'ils l'ont parce que tout le monde l'a, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Quoi. L'iPad, lui, il a l'air de s'en servir, le monsieur à côté de moi. Là, mais souvent, et les gens achètent ça uniquement parce que c'est la technologie qui vient de sortir, mais ils n'en ont pas l'utilité.
Mmh. Match et Papa Diamandis, oui. On va rappeler votre site internet. Je joue du piano.com. Est-ce que vous êtes un amateur de BD d'ailleurs, tiens, je vous ai même pas demandé.
Très peu, à vrai dire.
Très peu, mais comme vous êtes tout à l'heure, vous lisez quand même dans le livre de Binet.
Oui, hein. oui, avec beaucoup d'intérêt, oui, bien sûr. Mais bon, j'ai eu assez peu l'occasion, effectivement, de fréquenter ce monde-là.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu tout à l'heure ? Vous me disiez le prélude de Chopin, c'est
oui,
ça
oui, oui, oui. On voit que vraiment, il y a une connaissance bien plus qu'un mélomane. On sent effectivement des finesses dans la manière de percevoir ce prélude de Chopin qui est tout à fait étonnante.
Enfin, vous notez quand même une chose, c'est que les musiciens ne sont pas toujours très bédéphiles, mais à l'inverse, les auteurs de BD, me disiez-vous à l'instant, Christian, ne sont pas très amateurs de classique en règle générale.
Pas de classique, mais de musique, oui.
Ouais. C'est-à-dire quasiment, plutôt rock ou...
Oui, mais pratiquement tous les auteurs que je connais jouent d'un instrument.
Hein. Ah bon ?
Ah oui, oui. Oui.
Mais plutôt, c'est ça, plutôt
mais
rock,
en classique,
blues,
je suis tout seul. Je sens vraiment... Je fais un appel, d'ailleurs, j'en profite à la radio aussi. D'autres, mais j'en connais pas pour l'instant.
Des auteurs de BD qui connaissent et qui aiment le classique et qui iront au concert. Ouais. Avec vous, vous y allez avec qui d'ailleurs ?
Avec mon épouse.
D'accord.
Mon épouse. Puis d'autant, j'ai aussi emmené mes enfants ou des amis quand il y a des choses qui sont faciles. Et puis à chaque fois, j'ai rencontré un franc succès parce que les gens vont toujours avec appréhension. Mais quand on sait choisir un opéra facile qu'on a déjà vu avant, avec une mise en scène un peu à la Hollywood, par exemple, Carmen avec des choses sur scène, etc., mes enfants étaient béats, quoi. Hein, ils sont sortis emballés. Hein.
Ouais. Ils écoutent maintenant le classique ?
Ah oui, ils écoutent, oui. Oui, oui. Mmh. Bah oui, mes petits-enfants aussi. Et puis spontanément, en plus, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, c'est comme ses enfants, lui, on ne les pousse pas. Quoi. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment, ils écoutent.
On y va naturellement après. Haut de gamme, c'est donc le titre de la série. Bas de gamme, le titre du volume 1. C'est signé Christian Binet, je ne l'ai pas dit encore. Ça paraît chez Dargo. Merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. Le dernier extrait, eh bien, ça va être encore un choix de vous, Christian. Et du Ropart, j'ai l'impression que vous l'aimez bien celui-là. Alors, d'abord.
Je dois tellement. Je vous dis, j'ai tout mon plus grand bonheur, c'est de jouer son recueil pour harmonium qui est splendide. Donc, si je peux lui donner un petit coup de main, parce que c'est quand même un auteur un peu négligé et puis mal connu, à chaque fois, je le fais. Hein.
Et là, c'est donc son Nocturne. Les dernières mesures du Nocturne de Guy Ropartz. C'était dirigé par Michel Picmal. Cette émission, elle était préparée par Nelly Portal, réalisée par Catherine Prin-Legal à la technique aujourd'hui, Pierrick Charles et Amandine Grevaux. Je vous donne rendez-vous demain dans le magazine. Nous serons avec le violoniste Renaud Capuçon, peut-être Franck Bralet s'il s'est relevé de sa grippe, le pauvre. Enfin, dans tous les cas, on lui souhaite un très très bon rétablissement, si possible demain, sinon une autre fois. Et puis nous serons aussi demain, sans doute, avec Maxime Capriélan, qui viendra nous parler du guide des DVD de musique classique. Très bonne soirée à tous à l'écoute de France Musique.